I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Quand Aurèle n'était pas en forme, on ne pense pas forcément aux jumeaux, on pense à lui en se disant « maintenant, il faut que ça aille, il faut que tu te battes, tu vas y arriver ». Et c'est, pour le coup, quand tout va mieux, quand il va mieux, quand il sourit, quand il est joyeux, que là, pour le coup, on voit double, finalement. Et on se dit, il aurait dû être deux. Bah, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quand Aurèle joue avec une poupée, et joue avec cette poupée avec une dextérité vraiment simple, et il lui fait des bisous, le prend dans ses bras, limite. Voilà, tout de suite... alors que cette poupée, on lui a offert pour Noël, mais elle est retournée au fin fond du placard parce que c'est pas possible. Pour nous, c'est trop dur de voir Aurel jouer avec cette poupée alors que théoriquement, il aurait dû jouer avec César, quoi. Et qu'à la sortie de l'hôpital, on était focalisé sur Aurèle à 100%, et c'est les vacances, et on a bougé un petit peu, et c'est à la rentrée où, voilà, on est dans notre appart, et bah, on prend conscience qu'on n'est pas quatre, qu'on est trois. Et c'est en effet, quand tout va bien, qu'on y repense en permanence, quoi. On a le sentiment que beaucoup de gens ne veulent pas aborder le sujet de César parce qu'ils ont peur de nous blesser, ils ont peur de nous se remémorer des moments finalement tristes pour nous. Là où nous, finalement, on manque qu'une chose, c'est d'en parler. Les plus proches ont compris, parce que finalement, au bout d'un moment, on leur a dit, il faut, César existe. Aurèle a un frère jumeau. Voilà, il faut que... grandissent avec ça, et il faut surtout pas ne pas lui en parler, ne pas exprimer tout ça. Mais oui, je pense que les gens ont toujours peur de partir sur ce sujet-là. Ils ne savent pas comment on va réagir. Et en même temps, c'est à nous aussi, quand ils abordent ce sujet, de les rassurer, de communiquer et de faire en sorte que ça soit un sujet qui ne soit pas tabou. Le meilleur exemple, c'est quand quelqu'un nous lance sur César ou sur cette nuit de son départ, où on est inarrêtable, quoi, et on parle pendant des heures, on peut en parler pendant des heures, et ça fait du bien d'en parler, beaucoup de bien.
Ce bébé d'un peu plus d'un an, que vous voyez sur la photo qui illustre cet épisode, il joue avec des petites pieuvres réalisées au crochet. Ces pieuvres, elles ont été fabriquées pour les nouveau-nés qui sont hospitalisés à la naissance et sont souvent distribuées dans les services de réanimation néonatale. Ces pieuvres, elles rassurent avec leurs longues tentacules auxquelles les petites mains des nourrissons peuvent s'agripper. Une manière aussi de s'assurer qu'ils ne joueront pas avec les fils des capteurs ou du cathéter auxquels ils sont reliés. La pieuvre, c'est la compagne du bébé. Tandis que la première a délaissé les fonds sous-marins et le second a quitté la vie aquatique propre au ventre maternel, ils se tiennent compagnie dans l'atmosphère confinée de la couveuse. La pieuvre, elle est la témoin des soins donnés au bébé, des prises de sang, des examens médicaux, mais aussi des premiers sourires, des premières pleurs, des premières mimiques. Elle entend chaque bip, chaque alarme, mais aussi la voix rassurante des parents de l'enfant. Du coin de l'œil, elle observe aussi les médecins, qui arrive parfois en courant dans la chambre. Ce bébé sur la photo, il s'appelle Aurèle. Aurèle, il joue même avec deux petites pieuvres. La première, c'est la sienne. La seconde, c'est celle de son frère jumeau, César. Aurel et César, César et Aurel, deux prénoms dont les racines puisent dans l'Antiquité romaine. Deux prénoms pour deux petits guerriers qui n'ont pas attendu la fin du second trimestre de grossesse de leur maman pour débouler dans la vie de leurs parents. Et ces deux pieuvres, c'était leurs amis, les amis de ces deux bébés qui, à peine nés, livraient déjà un combat inouï pour vivre. Toutes les 8 minutes, un bébé naît prématurément en France, selon les chiffres rapportés par l'association SOS Préma. Une naissance prématurée, c'est une naissance qui intervient avant 8 mois de grossesse, soit 37 semaines d'aménorrhée. Cela représente 8% des naissances, 60 000 bébés par an en France. Parmi ces enfants qui chaque année arrivent au monde trop tôt, il y a celles et ceux qui arrivent un peu trop tôt et celles et ceux qui arrivent beaucoup trop tôt. Aurel et César sont des très grands prématurés. Cela signifie qu'ils sont nés avant 6 mois de grossesse. Aujourd'hui, César n'est plus là. Il s'est battu pendant ses 2 premiers jours de vie, mais les complications liées à son extrême prématurité étaient tellement colossales qu'il n'a pas pu les surmonter. Aujourd'hui donc, César n'est plus là, mais il restera pour toujours le frère jumeau d'Aurel. Au revoir podcast, épisode 19. Quentin, mes jumeaux et l'épreuve de la très grande prématurité. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle de Quentin. Quentin vit à Paris avec Géraldine, son épouse. Et en 2019, le couple décide de fonder une famille. Quelques mois plus tard, Géraldine découvre qu'elle est enceinte. Une grossesse qui cache une surprise découverte lors d'une échographie de datation.
Et donc le soir, on a l'air revenu, on a expliqué qu'il y avait des jumeaux en me donnant la photo de l'écho. Et alors, tout de suite au début, on se dit « Waouh, des jumeaux, catastrophe !» Ou catastrophe, en mode, on se dit « On est surpris, on est choqué, on se dit comment on va s'en sortir, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau financier, qu'au niveau, il fallait déménager, il fallait… Waouh, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête, quoi !» Et ça a duré peut-être 2 heures. Et au bout de 2 heures, on s'est aperçu de la chance, finalement, qu'on avait de pouvoir avoir une famille à 4. D'un seul coup, et passer ces 2 heures, en effet, d'un mixé de larmes, de fou rire et de projection et de, on était ravis. Et à partir de ce moment-là, on n'a fait que penser à cette famille à 4 avec 2 enfants. Et la grossesse s'est très bien passée pour Géraldine, même très très bien passée parce qu'il n'y a eu aucune complication. Géraldine n'a jamais eu mal au ventre, mal quelque part, une grossesse, parfaite, j'ai envie de dire, je ne peux pas mettre dans la place de Géraldine, mais de ses mots, tout allait bien. Nous, on avait fait le choix aussi de rien préparer, parce qu'on savait que, mine de rien, une grossesse gémellaire, c'est risqué, c'est touchy, mais on se préparait déjà mentalement à accueillir ses jumeaux.
L'année 2020 débute, et mi-février, Géraldine approche des 25 semaines d'aménorrhée. Elle est donc enceinte d'un peu plus de 5 mois. Le 18, c'est son anniversaire. Quentin rentre à la maison après sa journée de travail.
On devait aller dîner au resto et finalement, je retrouve Géraldine allongée sur le canapé avec pliée en quatre avec un mal de dos pas possible. Et donc, Géraldine se dit, bon, c'est bizarre, le mal de dos descend dans le ventre. Et elle me dit à 23h quelque chose, il faut qu'on aille à l'hôpital parce que j'ai trop mal. Et c'est vrai qu'elle se tordait de douleur, elle était allongée en permanence. Et aller à l'hôpital, dans le sens, ils vont me donner un calmant, ils vont me donner un médicament qui va me faire passer une bonne nuit, et demain, je vais pouvoir retourner au boulot et continuer la vie, finalement, professionnelle qu'on avait. Et même, pour tout dire, je pars à l'hôpital avec, dans mon sac, des bouquins, des BD, en me disant, je vais attendre dehors pendant qu'elle se fait ausculter, ça va durer 3 plombes, il est minuit, on va arriver aux urgences. Et j'étais loin d'imaginer ce qui allait se dérouler. Et très rapidement, ils prennent le cas de Géraldine très au sérieux parce que grossesse gémellaire. Et très vite, elle est prise en charge par une sage-femme qui lui dit très simplement « Vous êtes ouverte, Nicole, à 2 ». Géraldine fond en larmes. Et moi, je comprends pas. Je pense à une fausse couche à ce moment-là. Et finalement, Géraldine me dit « Non, non, ils sont limite, ils vont être viables. Je vais accoucher. » Et donc là, tout se met en route, on passe dans une petite salle, il y a le balai des médecins, des infirmières, des internes, compagnie, Jardine Escopée, péridurale. Et très rapidement, finalement, Jardine accouche de nos jumeaux à 2h19 et 2h20, donc pratiquement 2 heures après notre arrivée aux urgences de Trousseau.
Cette nuit du 19 février 2020 viennent donc au monde César et Aurel. César pèse 660 grammes, Aurel 800. Deux bébés de moins d'un kilo débarquent dans la vie de leurs parents qui n'étaient pas tout à fait prêts à les accueillir aussitôt. Une naissance, à ce terme-là, à 5 mois et quelques jours, ne ressemble en rien à une naissance habituelle.
Ce qui est le plus marquant dans cet accouchement qui est très inattendu, très rapide, on avait su à 23h30 quand on partait de la maison que Géraldine allait accoucher, c'est Géraldine qui, au moment où elle apprend qu'elle va accoucher, donc bien sûr fond en larmes, mais 2 secondes après se dit il faut que je réussisse, et donc là rentre dans une, je sais pas, dans une concentration, dans une, elle est dans son game, dans son match comme on dit, et ça ne la quittera pas jusqu'au lendemain, finalement le lendemain matin je pense, ou après l'accouchement où tout redescend. Mais j'ai rarement, enfin j'avais jamais vu ça, quelqu'un aussi fort, j'ai envie de dire, pour à cet accouchement où moi j'étais pour le coup très ému, très. Mais je pense que si Géraldine a été aussi forte ce soir-là, c'est aussi parce que les médecins, les sages-femmes, les internes ont aussi donné ce courage et cette détermination à Géraldine, et ils ont eu des paroles très fortes pour elle, pour réussir cet accouchement du mieux possible, j'ai envie de dire, et lui donner le courage de y aller à fond, vraiment. On rentre dans une bulle le moment où on apprend que ça va être l'accouchement. On avait quand même ce mince espoir pendant les premières minutes que cet accouchement allait être retardé, que finalement ils allaient rester un peu plus longtemps au chaud. Et ça a été très soudain quand ils ont pris cette décision, c'est-à-dire qu'ils ont vite, il faut aller au bloc, c'est maintenant. Alors j'ai pas fait grand-chose, j'étais juste posé et je tenais Géraldine dans mes mains, la tête de Géraldine dans mes mains, et mon rôle n'a été que de l'encourager et d'essayer de la soulager du mieux possible avec mes paroles, même si j'étais, je pense, assez discret et voilà. Et je pense que j'étais aussi très ému, notamment quand il nous présente César. Parce qu'on n'est pas préparé à la prématurité, et voir ce tout petit bébé de 660 grammes. Donc voilà, donc on apprend que c'est deux garçons, on savait pas. Ils m'ont proposé donc d'annoncer le sexe. J'ai vraiment du mal, quoi. Donc j'aurais laissé. Et puis la deuxième fois, quand ils m'ont dit pour Aurel, j'ai dit allez-y, dites que c'est un garçon. Et oui, je pense qu'il y avait ce côté où moi j'étais très ému. La vision de ces tout petits bébés. Et puis après, on retourne dans cette salle et là, c'est un moment de joie finalement. C'est un moment de joie. On s'est fait une selfie. On était heureux. On était. Je pense qu'on n'avait pas encore réalisé qu'on était parents, parce que pour le coup là, c'était tout est arrivé beaucoup trop vite. Mais c'était vraiment un moment joyeux et on en rigole maintenant avec Géraldine, mais où là, on se retrouve il est 3h du matin et on est sur prénoms.com en train d'essayer de trouver des prénoms. On n'avait même pas les prénoms, on savait rien, quoi. À 25 semaines, on se disait pas, bon, maintenant, il faut qu'on choisisse les prénoms. Et on n'avait pas mis de timing, j'ai envie de dire, dans tout ça. C'était très joyeux et on était bien, on était soulagés qu'il soit vivant. On était soulagés d'être à Trousseau, d'être avec des vrais pros, j'ai envie de dire, et on savait qu'ils allaient tout faire pour les aider à s'en sortir.
On était soulagés qu'ils soient vivants. Par ces mots, Quentin dit l'essentiel de ce qui se passe dans la tête des parents lorsque leurs bébés naissent très grands prématurés. Malgré le terme de la grossesse, malgré leur petit poids de naissance, malgré les contractions, les jumeaux sont vivants. Ils sont aussitôt pris en charge par les pédiatres, par les infirmiers et infirmières, et sont mis dans des couveuses pour être emmenés dans le service de réanimation néonatale. De futurs parents, Quentin et Géraldine sont propulsés sans ménagement et sans aucune préparation dans le monde des parents d'enfants nés très grands prématurés. Des bébés à peine venus au monde, qu'ils sont déjà dans une situation d'urgence vitale. Ce monde, il est peuplé d'alarmes, de fils, de systèmes d'aide à la respiration. Il faut sauver César et Aurel. Il faut les aider à vivre alors que leurs poumons, leur cerveau, leur système digestif n'était pas prêt à fonctionner hors du ventre de leur maman. Tous ces aspects sont expliqués au couple quelques minutes avant la naissance des jumeaux.
On a été au courant de tout, de A à Z. On a su qu'ils allaient naître, mais qu'ils allaient naître dans une situation très critique, tant par le poids, mais très vite, on a su aussi pareil que le poids, c'est pas ce qui importait. Finalement, qu'ils pèsent 800 grammes ou qu'ils en pèsent 1 kilo, ce qui était très important, c'est le poumon, le cerveau, le cœur. Je pense qu'à ce moment-là, on est quand même choqués. Ça reste quand même très... Les souvenirs sont là, mais ça reste très brumeux, tous ces souvenirs. Le lendemain, le pédiatre nous explique la prématurité et l'urgence vitale, finalement, est minute par minute, d'une possible dégradation ou au contraire des améliorations, et ainsi de suite, des bébés. Mais très vite, on a su que c'était costaud et que c'était pas, un accouchement d'un bébé, je veux dire, classique et à terme. César, lui, est intubé tout de suite. Quand Aurel n'en a pas besoin, mais Aurel est intubé aussi quelques minutes après quand il arrive en réa. Et puis avant de se coucher, Géraldine peut pas marcher parce qu'il y a encore sa péridurale qui fait donc elle a pas l'usage de ses jambes encore. Donc moi je vais les voir pour la première fois dans leur chambre vers 5h du matin. Et c'est là aussi où je pense que je prends vraiment je réalise vraiment ce qui se passe et de l'urgence de la situation. Il y a ces bruits, il y a l'hôpital, finalement, l'hôpital, la réanimation, qu'on ne connaît pas, c'est un domaine, l'hôpital, j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant, on n'a jamais été à l'hôpital, j'ai envie de dire, et c'est là où on se dit, ok, maintenant, il y a urgence et il faut être fort pour eux et il faut qu'ils s'en sortent, quoi. Et on passe une première bonne nuit à la suite de cette journée, où on s'endort bien, Et puis voilà, on a nos bébés qui sont en dessous. Et je pense qu'on se dit, ils sont entre bonnes mains. Tout va bien se passer jusqu'au jour où, le lendemain, où tout bascule pour César comme pour Aurel.
Au cours de la première journée de vie d'Aurel et César, Quentin et Géraldine descendent tous les deux régulièrement dans le service de réanimation pour voir leur bébé, pour s'habituer à cette nouvelle vie et se familiariser avec ce service, ses bruits, son atmosphère. Il ne reste jamais plus de 15 minutes au début. C'est intimidant et anxiogène, la réanimation. Le couple commence à participer aux soins de leur minuscule bébé dès le lendemain de leur naissance, le 20 février. Aidés par les puéricultrices, ils peuvent par exemple changer la couche de leur fils. La toute petite couche de leur fils. Mais ce même jour, en soirée, alors qu'ils sont remontés dans la chambre de la maternité, l'équipe de réanimation tente de les joindre plusieurs fois par téléphone.
Et là, tout de suite, ils nous disent « Aurel va pas bien du tout, on a dû le réintuber ». Et donc, on arrive dans cette chambre, et la vision de la chambre, vraiment désordonnée, avec un peu de sang, et Aurel réintubé, alors qu'il avait été extubé cet après-midi-là. Et quand ils l'ont réintubé, bon, ils ont réussi à le sauver, la situation était quand même très critique, et on a... La pédiatre qui était présent ce soir-là nous prend dans son bureau. Donc, on est un peu choqués. Je pense que c'est la première fois qu'on se dit et qu'on imagine finalement vraiment la mort, finalement, de potentiellement perdre notre bébé. Et au bout de ces 20 minutes d'entretien avec la pédiatre, on retourne là où étaient les chambres d'Aurel et César. On n'arrive pas à aller dans la chambre d'Aurel parce qu'on avait eu encore cette vision de l'urgence et il y a quelques minutes et puis voilà de tout ce désordre dans cette chambre, toute cette vision d'un peu du combat qu'il y avait eu pendant ces quelques minutes.
Géraldine et Quentin décident donc de se rendre cette fois-ci dans la chambre de César car ils ont la possibilité de participer à ses soins. Tout à coup, Géraldine se rend compte que son bébé se met à cracher du sang. César est en train de traverser les mêmes complications que son frère jumeau quelques minutes auparavant. Les médecins arrivent en urgence pour essayer de sauver César et de le réintuber, puisque, tout comme Aurel, il avait été extubé peu de temps avant. Géraldine et Quentin ne veulent pas quitter le service. Ils restent donc dans le couloir, près de la chambre de leur second fils. La porte est ouverte, ils peuvent observer de l'extérieur ce qu'il se passe.
Il y a beaucoup de monde, ça court beaucoup. On demande... à des internes, des infirmières d'aller chercher du sang, on demande, voilà, il y a toutes les équipes de réa qui arrivent. Là, la pédiatre vient nous voir en nous disant c'est exactement le même problème qu'a eu Aurèle il y a quelques minutes. On va tout faire pour sauver César. On s'acharnera pas. On va essayer de fixer ce petit canal pendant 20 minutes. On va essayer de le réintuber. Mais voilà. Et donc, on est en attente, on est devant, on vit toute la scène. Et au bout de 20 minutes, ils viennent nous voir en nous disant... au bout de 15 minutes, ils nous disent « on va encore essayer 5 minutes ». Et au bout de ces 5 minutes, ils viennent nous voir en nous disant que c'est terminé. Que César est parti. Et donc, sur le coup, bien évidemment, pour nous, c'est un énorme choc. On vient de perdre notre petit bébé. Aurèle était dans un état critique. Et... potentiellement, ce soir-là, on se dit qu'on rentre à la maison sans bébé. Et maintenant, quand on y repense, je suis ravi d'avoir pris cette décision, d'avoir attendu devant la porte, parce que je sais, et on a vu qu'ils avaient tout fait. Et là où je pense que potentiellement, on aurait pu se dire « qu'est-ce qui s'est passé ?» Là, on a tout vu, tout compris, finalement. Et puis donc, ils nous ont proposé de porter César une dernière fois dans nos bras, là où moi j'étais pas forcément pour, mais et Géraldine voulait le faire, et donc j'étais avec elle et j'ai porté, et je pense que c'était très fort et j'aurais regretté de pas le faire si Géraldine n'avait pas poussé à ça, n'avait pas poussé pour le prendre. On a passé un moment, je dirais petite dizaine de minutes tous les trois, et puis on est parti. Et là, on est on est partis tous les deux. Je crois qu'on avait besoin de s'aérer. On avait besoin de. Il était tard. Il était peut-être minuit, 11h30, minuit. C'était effroyable. Il y avait du vent. Il faisait nuit. Et on va se coucher. Et on va se coucher toujours à l'hôpital, en se disant on a perdu notre petit bébé. Il y a Aurèle qui est toujours en réanimation, qui se bat. Et il faut qu'ils s'en sortent. Et le lendemain, on se réveille. Il faut aller au combat. Il faut avancer. Il faut qu'on donne notre énergie, notre esprit positif, combatif à Aurèle pour qu'ils s'en sortent. On a aussi la chance de pouvoir échanger un moment avec le pédiatre de la journée qui était à Trousseau, avec l'interne. Et je pense que c'était une discussion qui était très positive. Où il y a eu des très bons mots, nous faire comprendre, même si là, je pense qu'on avait vraiment compris l'urgence et le côté minute par minute de la situation d'Aurèle, et que c'était pas le soir à 19h quand on part et salut à demain matin, et que voilà, en une seconde tout pouvait se dégrader et que c'est des tout petits bébés. Et que un rien peut enrayer la machine, et c'était vraiment le rendez-vous qui nous a donné cette force de retourner auprès d'Aurèle, parce que c'est costaud de passer à chaque fois devant la chambre de César, où il y a quelques heures il était là et on se battait entre guillemets avec lui. Mais rapidement il a fallu se dire il faut qu'on soit là 100% pour Aurèle, et chose qu'on a fait dès le lendemain matin. On n'a pas le droit, quand on rentre dans cette chambre avec Aurèle, on n'a pas le droit de s'effondrer, on n'a pas le droit de se lamenter. Et il faut qu'il y ait que des ondes positives, et il faut que César, qui n'est plus là, soit aussi une force pour Aurèle. Et c'est vrai que pendant ces 3 mois d'hospitalisation, on a quand même parlé énormément de César à Aurèle. Et c'est vrai que je pense qu'au quotidien, il y avait cette force qu'a laissé César à Aurèle. Ouais. On est très conscient que tout peut basculer en quelques minutes, et on s'attache, mais à aucun moment on s'est projeté. En tout cas pas à ce moment-là. Peut-être plus tard, quand les choses allaient mieux et on pouvait commencer à se projeter, mais quand même les médecins ne donnent pas leur avis, ne serait-ce que sur des choses assez basiques. Nous, on peut pas se projeter non plus, et on se projette sur l'heure d'après, sur les 3 heures d'après, sur la journée du lendemain et encore. Mais quand on voit ce tout petit bébé si faible, si, enfin, c'est la vision de tous ces câbles, de tous ces, il est relié de partout, il y a son cathéter, il a des piqûres dans tous les sens, il a des, mais c'est notre bébé et on l'encourage de toutes nos forces, mais on se projette pas, on peut pas se projeter.
On ne peut pas se projeter. Quand la vie ne tient qu'à un fil, qu'on ne sait pas ce que l'avenir réserve, et quand je dis l'avenir, ce que la minute, l'heure, le jour d'après réserve, c'est impossible de se projeter. Mais on s'attache à ce bébé, comme le dit Quentin, car ne pas se projeter, ça ne signifie pas ne pas s'attacher. Et quand tout est incertain, il est difficile de s'éloigner de cet enfant qui lutte pour rester en vie. Et pourtant, pendant qu'Aurèle reste à l'hôpital, Géraldine et Quentin doivent aussi s'occuper des funérailles de César. César sera enterré en Touraine, mais le couple n'a qu'une peur. Ne pas être près d'Aurèle en cas de problème. Alors se pose la question suivante. Prendront-ils le risque de le quitter le temps d'une journée?
On ne veut pas aller à l'enterrement de César, parce qu'on se dit d'une, qu'est-ce qui va se passer avec Aurèle? Et on se dit qu'on doit être là, on doit rester. Qu'est-ce qui se passe s'il se passe quelque chose avec Aurèle à Trousseau pendant que nous, on est en Touraine auprès de César? Et c'était pour nous inconcevable. Et on se dit, il faut être là pour lui et pas l'abandonner et pas le laisser seul dans tout ça quand nous, on est loin. Et il y avait aussi le côté, on était tellement en mode guerrier, j'ai envie de dire, dans une dynamique qui était positive pour nous, pour Aurèle, et on se voyait pas aller à l'enterrement et entre guillemets, prendre la douleur des autres. C'était aussi, on avait besoin de voir le côté positif des choses et puis finalement, en discutant avec les infirmières, avec les médecins, ils nous disent allez à l'enterrement, on ne fera rien sur Aurèle. Venez le matin, donc on y a été le matin très tôt. On a été à l'enterrement et on est revenu le soir très tard auprès d'Aurèle et on a été à l'enterrement avec juste nos parents respectifs et c'était une belle journée. Même si c'était une journée traumatisante, j'ai envie de dire quand même, la vue de ce tout petit cercueil, mais en même temps une journée magnifique. Et on a pu accompagner César et revenir auprès d'Aurèle le soir où tout s'était bien passé. Et il avait passé une bonne journée et on a pu être là pour les deux. On a pu raconter à Aurèle cette journée aussi et surtout on pourra lui raconter aussi plus tard quand il sera en âge de comprendre. Et c'est très bien et on est très maintenant très soulagé, apaisé d'avoir été là à l'enterrement. Et c'était une bonne décision qu'on a prise, je pense. Mais aussi parce que rien ne s'est passé avec Aurèle ce jour-là. Et tout s'est, entre guillemets, bien passé. Donc voilà, que ce soit le pédiatre qui était là, que ce soit les infirmières, tout le monde nous a dit « Allez-y, appelez-nous ». On les a appelés, je pense, 3-4 fois dans la journée. « Comment va Aurèle ?» Et à chaque fois, c'était « Tout va très bien, hein, vous inquiétez pas, on est là ». C'est grâce à eux qu'on a pu aller à cette journée. C'est eux qui nous ont motivés, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais qui nous ont convaincus d'y aller. Et puis le lendemain, la vie a repris, j'ai envie de dire. Et le quotidien d'Aurèle en réanimation a pu continuer. Il a été extubé le lendemain ou 2 jours après.
Petit à petit, Géraldine et Quentin prennent leur marque dans ce nouveau quotidien. Géraldine est en congé maternité, tandis que Quentin, qui travaille dans la restauration, peut compter sur ses amis et collègues pour prendre le relais au travail. Une véritable entraide se met en place. Moins d'un mois après la naissance des jumeaux, c'est le confinement de mars 2020, ce qui permet à Quentin d'être présent à 100% avec Géraldine auprès de leur petit guerrier. Et même si César n'est plus là physiquement, c'est comme s'il était présent tout le temps, lui aussi, auprès de son jumeau, pour le soutenir.
Nos bébés sont nés à Trousseau. On est rentré à 2 avec Géraldine. On a été 4. Et je pense que jusqu'à notre départ de l'AREA de Trousseau, on a été 4 à leurs yeux. César revenait relativement souvent dans les discussions, que on a eu quand même beaucoup de soutien et d'aide au sein de cette unité de réanimation, tant au niveau psychologique qu'au niveau médical pur et dur. On a posé, je pense, énormément de questions avec Géraldine. On voulait tout comprendre de A à Z. On notait tout, on revenait sur des questions. On a été. Et je pense que ce côté, on avait besoin de beaucoup verbaliser et d'entendre beaucoup de choses, d'être vraiment tenu au courant. On a, par exemple, dans les chambres, tout est noté sur des papiers, tout est dans les chambres. Et donc, on regardait en permanence, toutes les transmissions étaient faites dans la chambre. Donc, on entendait tout, on était tous les quatre, on a été tous les quatre jusqu'à notre départ. Et pour nous, aux yeux des médecins, c'était le petit Aurel, c'était leur tout petit bébé. Il y avait déjà en effet César qui était parti. Et pour nous, alors, ils n'ont jamais verbalisé comme ça, mais on sentait que c'était, on va se battre avec Aurel et on va tout faire pour que Aurel vive et que vous puissiez partir d'ici avec Aurel vivant et en forme, j'ai envie de dire.
Après la première vague de l'épidémie de Covid-19 au printemps 2020, de nombreux lits de réanimation sont réquisitionnés. Le service qui accueille Aurel n'est pas épargné et il est donc décidé que le bébé, dont l'état est désormais plus stable, sera transféré dans un service de réanimation et de soins intensifs d'un autre hôpital parisien. Un mois et demi après sa naissance, Aurel quitte donc Trousseau. Trousseau qui a vu naître les jumeaux. Géraldine et Quentin doivent reprendre leur marque dans un autre hôpital qui n'a pas connu César et dont le service, qui va prendre en charge Aurel, vit au rythme d'un protocole de visite très strict à cause de l'épidémie de Covid.
Et on est arrivé donc dans ce nouvel hôpital avec des nouvelles équipes, avec des gens qui connaissaient pas notre parcours finalement, au-delà de bien sûr du dossier médical d'Aurel, mais qui ne connaissaient pas notre histoire et une page se tournait avec Trousseau, là où tout a commencé. Et en partant de Trousseau, on perdait aussi ce lien avec César, mine de rien. Et ça a été, je pense, alors c'était pas comme ça qu'on le voyait, mais ça a été très traumatisant finalement ce transfert. Et c'est maintenant quand on y repense et quand on réfléchit à tout ça qu'on se dit en fait on a laissé César à ce moment-là. C'était la première fois qu'on se disait voilà, César n'est plus avec nous. Il a fallu réapprendre finalement parce que les protocoles sont très différents dans les mine de rien entre deux hôpitaux. On est arrivé dans une chambre où on n'était plus seul, là où en réa à Trousseau on était tout seul dans notre chambre. On avait le droit à des visites mais que 4 heures par jour et un seul parent, donc on y allait une fois sur deux avec Géraldine, on alternait, et 4 heures par jour. Et par exemple, il y a eu cette anecdote où à ce moment-là Aurel était en néonat, c'était sur la fin, on pouvait à ce moment-là y retourner tous les deux avec Géraldine, et cette infirmière qui était fantastique et qui était là très souvent et qu'on vraiment on a adoré, on a tissé des liens avec elle, nous dit à un moment, parce qu'on était tous avec Géraldine, on était positif, on rigolait, on était avec Aurel, et qui nous dit vous étiez fait pour avoir des jumeaux. Et on lui dit on lui en veut pas et c'est pas, et puis on lui dit bah il y avait un frère jumeau, et donc elle s'aperçoit de la bourde qu'elle avait faite. Mais c'est pour dire c'était pas la même chose, et qu'à cette petite phrase qui nous a pas blessés, bien sûr que ça nous a fait mal, mais ne serait pas arrivée avant dans cet ancien hôpital. Parce qu'ils avaient l'histoire complète de notre famille.
Au mois de mai 2020, Aurel a assez de force pour pouvoir sortir de l'hôpital et rentrer chez lui avec ses parents. Comme de nombreux petits prémats, il sera donc passé par la réanimation, par les soins intensifs et la néonatalogie, dernière étape avant la maison. Aurel va cependant rentrer en hospitalisation à domicile, en HAD. Cela signifie qu'il continuera pendant quelques temps à avoir des soins à la maison et des puéricultrices viendront le voir quotidiennement. C'est une nouvelle étape pour Géraldine et Quentin. Ils rentrent à 3, mais en vrai, ils restent 4. Alors pour annoncer la nouvelle du retour à la maison, ils ont décidé d'écrire une lettre à leurs proches. Une lettre pour leur dire qu'Aurel, ce petit guerrier, avait franchi de grandes étapes, mais qu'il ne fallait pas oublier un autre petit guerrier, son frère jumeau, César.
Quand Aurel sort, un peu plus de 3 mois après son arrivée à Trousseau, on est aux anges, on est ravis, on est content, on a préparé sa chambre, il est avec nous, il va sortir, mais cette sortie, c'était aussi mine de rien très triste. Alors on appréhendait beaucoup parce qu'Aurel sortait avec cette hospitalisation à domicile, donc mine de rien c'était pas une sortie normale parce qu'il est rentré à la maison en ambulance. Il est arrivé avec ses bouteilles d'oxygène, des visites de 2 heures chaque jour d'infirmières qui venaient checker. Voilà, c'était quand même très très lourd. Mais on sortait qu'avec un seul bébé. Donc ça a été compliqué quand même. Donc c'était un mix de joie et de tristesse mine de rien. Et on a écrit cette lettre Et l'idée, c'était d'expliquer et de raconter le parcours d'Aurel pendant ces 3 mois, alors en réa, avec les hauts, les bas, et de raconter aussi ce qui s'était passé avec César, parce que Aurel avait été le centre de l'attention et finalement très peu de personnes avaient su ce qui s'était passé pour César et comment finalement il était mort. Et voilà, c'était une façon pour nous de dire, c'est la fin d'une première étape qui est l'hospitalisation avec le départ de César et le début d'une autre qui est cette, d'abord l'hospitalisation à domicile et ensuite la vie à la maison à 3, mais qui est finalement une vie à la maison à 4.
Aujourd'hui, Aurel va bien, même s'il sera suivi médicalement pendant encore quelques années du fait de sa prématurité. C'est un petit garçon à l'emploi du temps de ministre qui jongle entre différents rendez-vous hebdomadaires qui vont du contrôle chez le médecin à la séance de kiné, comme beaucoup de petits prémas en fait. C'est aussi un petit garçon plein de vie, un petit garçon très joyeux. Le chemin depuis sa naissance a été chaotique, mais il a franchi de très très nombreuses étapes. Et depuis son retour à la maison, il y a un peu plus d'un an, ses parents eux aussi en ont franchi des étapes, avec toujours en ligne de mire la volonté de faire vivre ce jumeau qui a partagé tant de choses in utero avec Aurel dans le ventre de leur maman. Ces mois qui ont suivi le 19 février 2020 ont été riches en émotions, en péripéties. Géraldine et Quentin, comme de très nombreux parents dont les bébés sont admis en réanimation dès la naissance, ont dû mobiliser toutes leurs ressources pour soutenir leur fils. Alors, quand la tension retombe, que la routine s'installe, que le rythme de la vie reprend son cours, s'impose ce moment où l'on commence à prendre la mesure de ce qu'il s'est passé en l'espace de quelques mois ou même de quelques jours. Car en février 2020, ni Géraldine, ni Quentin n'auraient pu se douter qu'ils allaient vivre, en l'espace de 48 heures, le choc de la très grande prématurité suivi de la déflagration du deuil périnatal.
En effet, il y a eu la naissance des jumeaux qui est arrivée qui était très inattendue, le départ de César et la mort de César qu'on avait vraiment mis de côté pour se focaliser sur Aurel. Après, il y a eu la sortie de l'hôpital et puis on se dit on prendra soin de nous, je prendrai soin de moi plus tard. On va chercher un peu d'oxygène un peu à gauche à droite en le week-end et compagnie et finalement. À aucun moment, pendant un an, jusqu'à peu près après Noël, on a pris le temps de repenser calmement et nous intérieurement ce qu'on avait vécu finalement. Et c'est que maintenant qu'on se dit ok, il faut qu'on prenne les choses en main et qu'on a un peu peur que ça nous explose au visage un an et demi, 2 ans après. Et c'est encore ce besoin de verbaliser, de communiquer, qui est là Et donc moi personnellement, je vois une psychologue pour m'aider dans ce cheminement. Et ça depuis très peu de temps. J'en suis à ma 2e séance. Mais il faut faire ce travail parce que j'ai trop peur qu'à un moment ou un autre ça explose quoi et qu'il y a un moment où tout disjoncte quoi. Et en fait on a aussi tous ces doutes autour d'Aurel. Comment parler de son frère jumeau à Aurel? Je pense qu'on lui en parlait beaucoup quand il était à l'hôpital. On en parle peut-être moins depuis qu'il est sorti. Comment ne pas mettre César sur en lui créant une image de César ceci, César cela, et lui se dise César était mieux que moi finalement, ou aurait été mieux que moi. Et ça, il y a beaucoup de questionnements et on est vraiment dans le flou. On navigue à vue là-dessus. Oui, de temps en temps, quand on parle de César, je pense qu'on chuchote limite pour pas. Pour qu'il entende, mais qu'il entende à moitié. Je mesure la chance qu'on a d'avoir Aurel à la maison. Je mesure le parcours qu'il a fait de ses 800 grammes jusqu'à maintenant, de tous ces épisodes de malaise qu'il a pu avoir, d'infection, de bactéries. Et ça, c'est tous les jours quand on le change et qu'on voit ses petites mains et ses petits pieds qui ont encore toutes les petites traces de piqûres. Et je me dis, tu t'en es sorti. Donc, je dois être à la hauteur pour lui maintenant. J'ai mis beaucoup de temps avant de le quitter. C'est-à-dire que même physiquement, dès qu'il est sorti de l'hôpital, il est venu, il a dormi dans notre chambre. La seule fois où j'ai dormi sans lui, c'était 6 mois après sa sortie de l'hôpital. Voire même plus, 7 mois après sa sortie de l'hôpital. Maintenant, je veux vraiment être là pour lui. Là où, pendant ces 3 premiers mois, bah, même si on était là, mais bah, c'était les médecins, c'était les infirmières, c'était les puéricultrices, c'était tous ces gens exceptionnels. Mais et en même temps, mon rôle, c'est aussi de faire exister, en effet, César, de faire en sorte qu'il ait sa place dans la famille, mine de rien, et qu'il ait une petite place pour près d'Aurel, et que maintenant la vie d'Aurel soit douce.
Cet épisode touche à sa fin et je te remercie, Quentin, d'avoir souhaité partager ton histoire. Parce que les liens les plus forts ne sont pas forcément ceux qui sont visibles à l'œil nu, merci d'avoir raconté l'histoire de tes jumeaux qui, malgré l'absence de César, resteront unis à jamais. J'espère qu'Aurel, un jour, lorsqu'il sera plus grand, aura l'occasion d'écouter cet épisode et de découvrir d'une autre façon l'histoire de sa naissance, de leur naissance, à son frère et à lui. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prématurité, je vous invite à écouter le beau témoignage d'Audrey, infirmière puéricultrice, qui avait accepté de m'expliquer son métier dans l'épisode 7 du podcast. Je me souviendrai toujours des mots qu'elle avait employés lorsqu'elle nous avait dit que les petits prématurés, que l'issue leur soit favorable ou non, étaient toutes et tous des champions et des championnes. Tous les chiffres que j'ai cités par ailleurs dans cet épisode proviennent du site internet de SOS Préma. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très vite et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je laisse le mot de la fin à Quentin qui va vous en dire un peu plus sur les petites pieuvres qui ont accompagné ses jumeaux dès leur naissance.
Et en fait, la pieuvre, ce qui est assez incroyable dans l'histoire de cette pieuvre, c'est que Aurel et César avaient la leur, chacun la leur. À la mort de César, les affaires de César ont été dans la chambre d'Aurel. Donc il y avait un de mes t-shirts qu'il avait en couverture, et puis il y avait son petit bracelet, il y avait sa pieuvre. Les pieuvres étaient de 2 couleurs différentes, et puis on s'en est pas rendu compte parce qu'on était, encore une fois, dans les nuages, mais en regardant les photos, on s'est aperçu que les pieuvres avaient, quelques jours après, que les pieuvres avaient été inversées. Et donc, en fait, c'est une infirmière qui a changé les pieuvres parce qu'il y en avait une qui était tombée par terre. C'est ce qu'elle vous avait raconté. Mais l'histoire qu'on raconte à Aurel est de dire, bah, c'est le cadeau de César. C'est la pieuvre de César, finalement, que tu as. Et il est resté à l'hôpital avec cette pieuvre. Alors que sur les premières photos du premier jour, c'est César qui l'a et maintenant, c'est la pieuvre d'Aurel. C'est mignon et la symbolique des pieuvres est assez incroyable.